Vous êtes sur RTL.
Charles Michel, la liaison n'était vraiment pas bonne. On vous reprend par téléphone et vous répondez à la question que vous posez, Benjamin Sportouche, sur le retour des frontières.
Non, la question n'est pas le retour des frontières. Aujourd'hui, vous savez, on voyage très peu en Europe parce qu'il y a beaucoup de restrictions d'ores et déjà. Ce que l'on sait, c'est que l'Union européenne est totalement interconnectée. Et donc, l'enjeu, selon moi, c'est réaliser l'union urgente des tests et des vaccins. Alors, s'agissant des tests, vous savez que les chercheurs sont en train de développer des tests rapides, des tests salivaires, qui peuvent changer la donne, qui peuvent soutenir les efforts des États membres, des autorités, pour tenter de repérer plus vite les personnes contaminées et de pouvoir plus rapidement les isoler. Et par ailleurs, on doit être mobilisé pour faire en sorte que les vaccins qui sont annoncés pour la fin de cette année et pour le début de l'année prochaine puissent réellement être déployés de manière efficace.
On va y venir, mais tout de même, je reviens sur les frontières. C'est vrai, vous dites qu'il y a des mesures de précaution, mais c'est pays par pays, il n'y a pas d'harmonisation. Donc on a l'impression aujourd'hui que l'Europe est impuissante en cela, à s'harmoniser sur ses frontières.
Mais la question des frontières n'est pas la question qui va résoudre. La question des frontières ne va pas résoudre la question du virus, parce que nous sommes confrontés à une vague qui est massive, qui est puissante. La deuxième vague est extrêmement difficile. C'est un virus qui n'a pas révélé tous ses mystères, qui n'a pas révélé tous ses secrets. On a bien progressé parce que maintenant on peut soigner mieux par rapport à il y a quelques mois. C'est déjà quelque chose de positif. Et surtout, on a deux grandes hypothèses. Soit on confine, on fait des lockdowns, ce que beaucoup de pays sont contraints de nouveau à faire, avec un impact économique, social, psychologique qui est gigantesque. Soit on arrive à déployer avec efficacité à l'échelle européenne des tests, et la possibilité d'avoir des tests plus rapides, c'est-à-dire des tests pour lesquels il y a moins de nécessité logistique et d'avoir des résultats et qui permettent d'avoir des résultats plus rapidement, est un élément qui peut favoriser la capacité des gouvernements, des autorités à faire reculer cette menace.
Sauf qu'il n'y a aucune homologation commune actuellement en Europe. Vous n'avez pas la compétence santé. Ça a été le cas, par exemple, pour les tests antigéniques.
Mais c'est bien l'objet de la vidéoconférence que nous aurons jeudi avec les chefs d'État et de gouvernement, parce que je sens que la plupart des leaders européens sont parfaitement conscients que si chacun met en place tout seul sur le plan national sa stratégie de test sans homologation de nature européenne, sans reconnaissance mutuelle, alors on sera de nouveau dans la bataille que l'on a connue dans le passé il y a quelques mois pour les masques, pour les équipements médicaux, et avec à la fin l'ensemble des Européens qui sont perdants. Il est de bon sens s'agissant des tests comme s'agissant des vaccins pour lequel on va vraiment travailler ensemble pour anticiper les difficultés auxquelles nous serons peut-être confrontés et résoudre les problèmes le plus vite possible. On doit vraiment être déterminé à travailler ensemble pour résoudre ces questions-là.
On vous entend déterminé, Charles Michel, mais l'Europe, vous l'avez dit, n'a pas été à la hauteur sur les masques, vous le reconnaissez vous-même. Et on craint que ce soit la même chose pour le vaccin. L'Allemagne est en train de préparer sa propre campagne de vaccination. C'est déjà le chacun pour soi.
Mais pardon, M. Witt n'est pas juste. D'abord, il est exact qu'au moment où la crise s'est déclenchée, il y a eu des réflexions nationaux. Certains pays effectivement ont fermé les frontières s'agissant d'équipements médicaux, et en quelques semaines, très rapidement, on a réussi à démontrer la valeur ajoutée de l'Europe en faisant en sorte qu'il y ait plus de coopération. Alors, tout n'est pas parfait, on est confronté dans une certaine mesure à de l'inconnu avec ce virus, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, chacun le mesure bien. Ici, il y a un élément nouveau depuis plusieurs semaines, c'est que de plus en plus de sociétés privées, de chercheurs, d'entreprises pharmaceutiques font progresser ces tests rapides et font progresser le taux de confiance que l'on peut accorder à cette estrapie. Cet élément-là peut changer la donne réellement.
Je vous parle
c'est
du
pour
vaccin.
Ça que vous avez raison. Oui. La question de l'homologation est importante. S'agissant du vaccin, c'est l'Union européenne qui a été le leader dans le monde pour mobiliser 16 milliards d'euros. On n'a jamais été aussi vite pour progresser dans la mise en place d'un vaccin. On a la perspective, alors qu'habituellement, il faut 10 ans pour trouver un vaccin et le développer. On a la perspective en une année de développer un vaccin. Ça veut dire maintenant que l'enjeu, c'est de garantir que tous les pays européens aient accès de manière équitable aux doses dont nous avons besoin, dont nous aurons besoin, et que l'on puisse s'entendre aussi sur les priorités. Et c'est ça le sujet que je mets à l'ordre du jour.
D'abord avant les priorités.
C'est de travailler ensemble pour définir quelles sont les populations dans tous les pays européens qui, par priorité, devraient avoir accès à ce vaccin quand il sera disponible.
Quand est-ce qu'il sera disponible, Charles Michel, ce vaccin ?
selon nos informations, on espère qu'à partir de la fin de l'année et au début d'année prochaine, 3 ou 4 vaccins puissent être progressivement disponibles. La Commission européenne, au nom des États membres, a signé de nombreux contrats pour s'assurer que quand les vaccins seront disponibles, on puisse bénéficier des doses dont nous avons besoin. Mais il est certain qu'on n'aura pas la baguette magique, on ne va pas en claquant dans les doigts faire en sorte que tout le monde soit en une fois vacciné. Il y aura des problèmes aussi logistiques, c'est très concret, qui vont se poser, puisqu'il y aura plusieurs vaccins. Certains vaccins pourront être attribués par une seule dose, d'autres nécessiteront 2 doses. Il y a donc des questions logistiques de transport, de conservation, de déploiement des campagnes de vaccination qui vont devoir être résolues. Et c'est pour ça que je veux mobiliser nos chefs d'État et de gouvernement pour anticiper, pour les encourager à utiliser leur autorité, pour faire en sorte que l'on puisse favoriser la capacité de prendre des décisions européennes.
Jean-Michel, vous nous dites que c'est important que ce vaccin sera normalement disponible à la fin de l'année, début de l'année prochaine. C'est important, tous ceux qui nous écoutent sont sensibles à cette information, bien sûr. Et en même temps, on se dit qu'on est dans l'urgence et que les 27 ont du mal à se coordonner dans l'urgence. On l'a vu pour les masques. On le voit pour les tests. On se dit, ben pourquoi ça va être le cas pour les vaccins? Ce qu'on craint, c'est qu'il y ait certains pays qui en bénéficient et peut-être pas d'autres. Quelques populations et peut-être pas d'autres.
Mais je suis là pour tenter d'expliquer les décisions qui ont déjà été prises. Et s'agissant des vaccins, justement, immédiatement quand la crise s'est déclenchée, nous avons mobilisé des moyens et nous avons démarré le travail politique pour s'assurer que l'on ne soit pas dans le chaos au moment où les vaccins commencent à être disponibles. Ça n'est pas simple parce qu'il y a parfois effectivement des réflexes nationaux, de protection nationale. C'est un mauvais calcul sur le plan européen parce que nous sommes tellement interconnectés par nos échanges, par la libre circulation des personnes, des marchandises, que c'est ensemble que l'on pourra réussir à faire reculer cette menace qui nous frappe depuis maintenant plusieurs mois. Nous avons, reconnaissez-le, mobilisé des moyens financiers colossaux au mois de juillet par un accord historique, 1 800 milliards d'euros pour soutenir d'ores et déjà les efforts de relance économique.
Tout à fait, Jean-Michel, le fameux plan de relance.
Oui. On a fait la démonstration de notre capacité sur des sujets extrêmement difficiles à prendre des décisions extrêmement fortes, mais il est certain que nous sommes dans la tempête, nous sommes tous dans le même bateau. Et dans cette tempête, il faut faire preuve de sang-froid, de bon sens, de détermination. Et c'est l'état d'esprit que je veux insuffler dans la dynamique européenne.
Charles-Michel, vous parlez à l'instant du plan de relance. C'est vrai qu'il est massif. Vous avez réussi presque l'exploit de mettre les 27 d'accord sur un plan massif. Mais en même temps, eh bien, on ne voit pas l'argent arriver dans les États. L'Italie devait toucher sa part cet automne et toujours rien. C'est pour quand concrètement? Par exemple, la France attend 40 milliards.
D'abord, concrètement, indépendant du plan de relance, il y a 540 milliards d'euros qui ont déjà été mobilisés avant le mois de juillet qui sont disponibles. Et donc, les États membres ont déjà la capacité d'être soutenus par ces mobilisations européennes. Par ailleurs, les 1 800 milliards d'euros décidés au mois de juillet, le Parlement européen doit valider ces propositions et la négociation est en train de se terminer avec le Parlement européen dans les tout prochains jours, afin que l'argent qui a été mobilisé au mois de juillet peut être disponible dès l'année prochaine, afin que des projets concrets de soutien au développement économique, de soutien à l'innovation, de soutien à la transformation climatique et digitale puissent être mobilisés.
Et d'ici la fin de l'année, Charles-Michel, est-ce qu'il y a des...
La réponse est oui, puisqu'il y a 540 milliards d'euros qui sont disponibles, qui ont été mobilisés. Et les États membres peuvent faire appel à ces mécanismes de solidarité qui ont été mobilisés et qui viennent en plus des 1 800 milliards d'euros. Donc il y a 540 milliards d'euros déjà disponibles depuis l'été. L'argent est disponible, les États membres peuvent l'utiliser. Vos questions montrent que l'Europe doit mieux expliquer, parce que je mesure bien au travers de vos questions, qu'il y a certainement la nécessité de plus et de mieux communiquer.
Très concrètement, est-ce qu'il y a des contreparties attendue? Est-ce que, par exemple, la France doit mener la réforme des retraites pour obtenir les 40 milliards?
Ce qui est certain, en tout cas, c'est que l'on doit être mobilisé pour s'inscrire dans la transformation climatique et la transformation digitale. Il n'est pas question pour l'Union européenne, pour Bruxelles, pour la Commission, de décider à la place des gouvernements nationaux, à la place des parlements, quelles sont les réformes prioritaires pour soutenir l'activité économique, pour soutenir les protections sociales. C'est la responsabilité des autorités nationales de mettre en place leurs réformes. Mais l'on veut effectivement encourager cette ambition climatique pour laquelle la France est très mobilisée. Et cette ambition d'utiliser l'agenda numérique pour favoriser plus d'emplois et plus de développement économique.
Venons-en à la Turquie, Charles-Michel. Les attaques du président turc Erdogan contre le président français, la liberté d'expression, la laïcité ont été condamnées en Europe, mais toujours pas de sanctions. Pourquoi encore attendre le Conseil européen de décembre pour sanctionner la Turquie ?
Parce que nous avons fait le choix d'offrir une double approche avec la Turquie. Nous avons décidé, après un très long débat qui a eu lieu au début du mois d'octobre avec les chefs d'État de gouvernement, que nous étions prêts pour un agenda plus positif avec la Turquie, si la Turquie le souhaitait et le voulait, et si la Turquie cessait ses provocations, ses actions unilatérales, notamment en Méditerranée orientale.
Mais visiblement, elle ne veut pas cet agenda positif.
J'ai réagi immédiatement ce week-end, parce que vous avez raison, les signaux, les attitudes, les propos injurieux sont absolument intolérable.
C'est la raison
pour laquelle nous aurons l'occasion, avant la fin de l'année, d'apprécier quelle est la situation.
Il y a bien un chef de la délégation européenne, une sorte d'ambassadeur d'Europe en Turquie, Monsieur Meyer-Landru, vous nous le confirmez? Il n'a pas été rappelé après ces insultes.
Mais parce que nous faisons l'analyse, c'est ensemble avec dans l'unité avec les 27 chefs d'État et de gouvernement que nous allons décider, pas simplement l'hypothèse d'un rappel ou pas d'un ambassadeur, ce qui, reconnaissez-le, n'a pas un impact majeur. Nous allons décider.
Ça aurait pu être un symbole de solidarité. Charles, toute dernière question, mais vraiment très brièvement. Est-ce que la réélection de Donald Trump serait une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Europe?
Ce sont les États-Unis qui doivent décider quel président ils élisent. En toute hypothèse, les États-Unis sont un partenaire et un allié important, même si c'est vrai que nous avons constaté ces dernières années des divergences de vues sur des sujets importants, sur le sujet climatique, sur le sujet commercial. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'Europe doit être plus assertive sur le plan international. On doit plus se mobiliser pour défendre nos intérêts.
Merci Charles Michel, bonne journée à vous.
Merci à vous. Au revoir.
Sur le coronavirus, les frontières ne sont pas la solution, vient de nous dire Charles Michel. Nous devons mettre en place l'union d'urgence des tests et des vaccins. Vaccins attendus pour la fin d'année ou le début 2021, vient de nous dire le président du Conseil européen Charles Michel sur RTL. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur RTL.fr. Et nous nous retrouvons Cyprien Signy dans un instant, qui surfe avec le calendrier. Et si on décollait Noël en juillet, c'est pas mal.